Sur France Inter, le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Et à la une, de faux certificats de conformité aux normes européennes découverts sur des masques fabriqués en Chine. Un organisme français va porter plainte. Information de la cellule investigation de Radio France. Alors que 22 245 personnes sont mortes en France des suites du Covid-19, 389 de plus en 24 heures selon le bilan d'hier soir. La crise économique liée au virus, 7 milliards d'euros d'aide pour Air France KLM, dont 3 milliards de prêts directs de l'État français qui qualifie ce plan d'historique. Votre invité à 8h20, Eric, a lui aussi des propositions pour Air France.
Oui, Mathieu Orphelin, député et ancien membre du groupe La République En Marche. Que valent les contreparties environnementales réclamées? Il a des propositions à faire, justement. Mathieu Orphelin, posez-lui vos questions. C'est maintenant 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un projet pour tester les Français au coronavirus jusque chez eux. 3 hôpitaux parisiens participent à Covisan, le Brésil et ses favelas où les corps des morts du Covid ne sont pas toujours évacués. Le Ramadan qui débute en plein confinement. Et puis, comment prolonger la vie des livres publiés juste avant le confinement? Eh bien, notamment par les réseaux sociaux. France Inter. Ce sont les produits les plus recherchés du moment, les masques chirurgicaux ou FFP2, difficiles à trouver, même parfois pour les soignants. Les trafics et autres fraudes se multiplient, notamment sur Internet, mais pas seulement. Il y a aussi de faux certificats de conformité aux normes européennes. Plusieurs organismes européens agréés pour délivrer le marquage CE ont alerté sur la recrudescence de ces faux documents. Et c'est une information de la cellule investigation de Radio France. Un organisme de certification basé à Nantes va porter plainte après la découverte d'un certificat de conformité à son nom pour des masques en provenance de Chine, Sylvain Tronchet.
L'École supérieure du bois de Nantes est un établissement de formation, mais également, depuis le début de cette année, un organisme notifié, c'est-à-dire autorisé à apposer le marquage CE sur certains produits, mais uniquement dans son domaine de compétence, la construction et la menuiserie. Son directeur, Arnaud Godevin, a donc été surpris lorsqu'il a reçu un coup de fil en début de semaine en provenance d'Italie.
On reçoit un appel un peu étrange d'une pharmacienne italienne qui nous demande de confirmer que nous sommes bien à l'origine d'un certificat de conformité CE pour des masques en provenance de Chine. Alors là, forcément, on a tout de suite démenti. En aucun cas, l'École supérieure du bois n'est habilitée à délivrer un marquage CE pour des produits aussi sensible que cela.
Le certificat en question porte donc le nom de l'École supérieure du bois, mais c'est un faux grossier. Il semble être utilisé par une société britannique qui commercialise actuellement des masques fabriqués en Chine et il a été présenté à plusieurs clients puisque l'école nantaise qui va porter plainte a également reçu un message de Hongrie pour lui demander s'il était authentique. Tous les acheteurs ne semblent pas avoir été aussi prudents. Nous avons trouvé ces masques en vente avec le fameux certificat sur le site d'une pharmacie en ligne en Italie au prix prohibitif de 9,15 € l'unité.
Sylvain Tronchet de la cellule investigation de Radio France. Masque obligatoire ou non dans les transports, retour à l'école volontaire ou échelonné. Le gouvernement tient ce week-end plusieurs réunions de travail sur ces sujets avant de présenter son plan de déconfinement en début, voire milieu de semaine prochaine.
Et le gouvernement qui annonce donc un plan de secours pour Air France KLM.
Avion cloué au sol par la crise du coronavirus, évidemment. Enveloppe totale de cette aide, 7 milliards d'euros, 4 milliards de prêts garantis par l'État apportés par des banques et 3 milliards de prêt direct par l'État qui détient 14% du capital de la compagnie. Pas de nationalisation prévue, mais des conditions d'aide fixées par le gouvernement pour sauver les 350 000 emplois directs et indirects en France. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.
D'abord des conditions de rentabilité, parce que c'est l'argent des Français, et des conditions écologiques, qui sont des conditions fermes. Dans l'histoire d'Air France, c'est la première fois qu'on apporte un soutien aussi important. C'est à la fois une question d'indépendance et une question de préservation des emplois, parce que derrière, il y a toute la filière aéronautique, il y a Airbus, il y a les emplois dans les territoires, il y a tous les sous-traitants aéronautiques qui se trouvent à Toulouse, Bordeaux ou ailleurs, et qui ont besoin de ce soutien de l'État. Nous soutenons Air France, comme nous soutiendrons toutes les entreprises française, qu'elle soit petite ou qu'elle soit stratégique comme Air France.
Et le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le journal de 20h de TF1 hier soir. Et les Pays-Bas promettent également une aide de 2 à 4 milliards d'euros pour KLM, l'État néerlandais qui possède comme la France 14% du groupe. Et autre annonce faite par le gouvernement hier soir, l'État français envisage de garantir un prêt bancaire pour aider Renault, le groupe automobile. 5 milliards d'euros environ, le montant est encore en négociation. Les constructeurs évidemment très touchés par la crise, les ventes mondiales de véhicules en chute libre. d'abord les concessions fermées et l'obligation de se réinventer, comme PSA, Peugeot Citroën, qui se lance officiellement dans la vente en ligne, Maxime Deps.
PSA dispose déjà depuis 3 ans d'un site internet qui permet aux clients de réserver un véhicule en ligne. Désormais, il peut donc aller jusqu'à l'acheter, mais de là à dire que le consommateur ira jusqu'à franchir le pas, Bernard Julien, spécialiste de l'automobile, n'y croit que très moyennement.
Dans un épisode comme celui qu'on est en train de vivre, ça mange pas de pain, en quelque sorte, de tenter ce genre d'expérience-là. Est-ce que ce sera pérenne? C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, et c'est vrai que ça permet de mettre un pied dans cette porte-là.
Sceptique, ce spécialiste du secteur l'est aussi en raison du profil de l'acheteur d'un véhicule neuf, plus proche de la soixantaine, moins rompu aux nouvelles technologies, mais pas que.
Il y a aussi un achat qui est relativement lourd, hein, ce sont des sommes relativement importantes, et par conséquent, il y a toujours un petit zeste d'hésitation qui fait qu'on a envie de voir le véhicule.
Et tout ça sans parler de quelques soucis de susceptibilité que ce nouveau modèle pourrait voir surgir.
Les constructeurs savent bien qu'il ne faut pas qu'ils se mettent à dos le réseau commercial qui va continuer de faire l'essentiel des ventes pour faire quelques ventes en direct sur le net.
Et le pas du tout numérique, tous les constructeurs ne sont aujourd'hui pas pressés de le franchir, à la différence de PSA. Renault, de son côté, indique que la vente 100% en ligne n'est pas à l'ordre du jour, expliquant que le passage par la case concessionnaire a quelque chose de rassurant pour le client.
À la SNCF, à présent, on se prépare au déconfinement qui sera progressif, vous le savez, à partir du 11 mai. À cette date, plus de la moitié des trains devraient circuler, selon les informations de nos confrères de France Info. Et le président de la SNCF, Jean-Marc Farandou, demande le port du masque obligatoire. Lui, se fait assez rare, mais la crise économique provoquée par le coronavirus l'inspire. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international, ancien ministre, auteur d'une 20aine de pages, début avril, intitulée « L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise ». Un texte qui circule dans les cercles économiques et politiques et algosse particulièrement au sein des élus de La République En Marche.
C'était le monde d'avant, la préhistoire même. En 2006, quand DSK se lance dans la primaire du PS, Stéphane Séjourné a 21 ans. Il débute au sein d'un club aujourd'hui disparu, Socialisme et Démocratie. DSK, il y a cru, il a milité pour lui. Alors c'est forcément avec intérêt que ce député européen lit les réflexions de son ancien mentor.
Le fait de penser que les solutions seraient uniquement nationales est à mon avis une erreur. Donc l'approche politique qu'il développe est une forme de mondialisation différente peut-être. Il manque au débat démocratique français dès Dominique Strauss-Kahn, au pluriel.
Lui aussi a retrouvé la foi avec Emmanuel Macron des années après le crash du Sofitel. Le sénateur François Patriat retient ses préconisations pour l'Europe.
Le problème de la majorité absolue, de l'indépendance de la Banque européenne et la voix de Dominique Strauss-Kahn pèse toujours parce qu'elle est empreinte de recul et de connaissances par rapport aux événements.
Mais il y a aussi les relocalisations, les nationalisations temporaires, la question des salaires. Le député Sacha Houlier, jeune strauss-kahnien, lui aussi avant d'être marcheur, a bien l'intention de puiser dans cette boîte à idées.
Nous, naturellement, on va pousser ces idées soit dans le cadre des groupes de travail des partis, dans le travail parlementaire du quotidien, et je sais que d'aucuns aussi au gouvernement sont en phase avec ce qui a été dit.
Avec prudence, car comme l'ajoute Sacha Houlier, il faut continuer à distinguer l'homme et les idées, formule polie pour garder une certaine distanciation avec le sulfureux DSK.
Yael Gauze.
Et une question à présent, comment éviter une deuxième vague? Comment reprendre le contrôle sur l'épidémie alors que se profile le début du déconfinement?
Eh bien notamment en testant les Français, la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, en partenariat avec des collectivités locales et le groupe hôtelier Accor, a lancé le projet Covisan pour dépister, accompagner les malades qui présentent des symptômes peu graves du Covid-19. Du personnel intervient même au domicile des patients. 3 hôpitaux le font. Rémi Brancato a suivi une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 14e arrondissement.
L'équipe de 2 bénévoles arrive dans ce HLM du 14e arrondissement.
Alors là, j'ai des kits de prélèvement pour toute la famille.
Une famille de 6 personnes dans un 3 pièces.
Ma mère, elle a des symptômes.
Myriam Mekouar teste donc la mère, seule malade, mais aussi le père et la fille aînée. Au bout d'une heure, elle conseille à Nibia, la mère, de rester isolée de son mari et de ses 4 enfants.
C'est pas l'habitude, c'est dur pour moi.
Les 3 garçons, Mustapha, Zakaria et Naël, sont prêts à s'adapter.
Elle nous a appris des trucs qu'on savait pas. Par exemple, moi, avant, les je me lavais les mains juste comme ça, et après, je partais, mais elle nous a appris qu'il fallait bien tout essuyer.
Alors, c'était quoi les consignes? Qu'est-ce qu'on a dit pendant en attendant les résultats?
On va s'approcher de maman.
C'est Zabia, elle, c'est son linge. Ici, elle dort ici, mais nous, on dort dans la chambre.
D'accord.
Faut tout le temps mettre des masques. Voilà.
En fait, il faut mettre les masques quand on voit maman, d'accord?
Merci beaucoup.
Camille Breton, l'autre bénévole, adapte la réponse sanitaire à chaque foyer. Impossible ici d'isoler la mère hors de l'appartement.
C'est elle qui va continuer à cuisiner. Il n'y a pas assez de chambre pour tout le monde. Je pense qu'il va y avoir plus de
moment où ils vont se croiser. Après, s'ils respectent tout ce qu'on leur a dit sur laver les mains, mettre un masque quand ils sont ensemble, ce sera déjà, on va dire, pas mal. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire si on avait juste traité la maman.
Sur 134 personnes touchées par le projet Covisan, 6 ont été hébergées à l'hôtel pour le moment. C'est le dernier recours.
Un reportage signé Rémi Brancato. En France, le nombre de patients en réanimation poursuit sa baisse, mais la circulation du virus reste à un niveau élevé, rappellent les autorités. 389 morts en 24 heures, selon le bilan d'hier soir. 22 245 morts depuis début mars dans les hôpitaux et EHPAD. Moins de morts également aux États-Unis, selon le dernier bilan en date. 1258 de plus, tout de même, et plus de 50 000 morts en tout du coronavirus. Donald Trump, qui assure à présent qu'il était sarcastique jeudi, lorsqu'il a suggéré d'injecter du désinfectant aux malades du coronavirus, que ça pourrait être une piste en tout cas à exploiter. Le président américain, qui a tout de même écourté sa conférence de presse hier sur la pandémie et n'a voulu répondre à aucune question.
Au Brésil, la démission du très populaire ministre de la Justice.
Sergio Moro accuse d'ingérence politique le président Jair Bolsonaro dans les affaires judiciaires. Le Brésil et ses favelas particulièrement exposés au coronavirus, manque de place, obligation d'aller travailler pour se nourrir et état totalement absent, à tel point que des corps sont abandonnés dans des maisons, notamment dans la favela de Providencia. Reportage Jean-Mathieu Albertini.
Le dimanche 19 avril, Seu Mauricio sort acheter un remède pour la fièvre, rentre chez lui et puis plus rien. Le mardi, l'odeur du corps en décomposition a alerté ses voisins, mais deux jours après, il était toujours sur place, explique le pasteur Cosme Philipsen.
Le cimetière a dit à son fils qu'il n'y avait plus d'espace pour accueillir son père, que la morgue était pleine. D'un autre côté, les voisins ont demandé que soient faits des tests pour savoir s'il était mort du Covid-19, mais l'hôpital a répondu qu'il n'avait aucun test disponible.
Il n'y a aucun chiffre officiel, mais juste dans cette favela, c'est déjà le deuxième corps laissé à l'abandon en moins de 15 jours. La police ne retire les dépouilles qu'en cas d'assassinat et les autres services de l'État ne prennent pas leurs responsabilités.
On continue d'aller de l'avant, de se mobiliser pour nous-mêmes, parce que les pouvoirs publics n'assument pas leur rôle. Ce n'est pas juste pendant cette pandémie, ça fait déjà trop longtemps que c'est comme ça.
Le corps a finalement été évacué 5 jours après son décès présumé, mais la situation empire dans la favela. Voisin de Seu Mauricio est mort après une forte fièvre et il n'a pas été testé. Par contre, la voisine du pasteur Cosme a, elle, été testée positive, mais sans accès à des soins efficaces. Elle est aussi décédée dans la semaine. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Et pour des centaines de millions de musulmans, le ramadan débute ou a débuté, un mois de jeûne en plein confinement. Un confinement qui bouscule évidemment les habitudes des fidèles, explique Mohamed, membre de l'association culturelle des musulmans de Bern-les-Forbach.
Le soir, normalement, on a une prière que l'on fait en groupe à la mosquée, où l'on se retrouve pour justement prier notre Seigneur le soir. Et malheureusement, cette prière ne pourra pas être faite en groupe à la mosquée. On avait l'habitude de s'inviter entre nous, de partager nos repas. Là, aujourd'hui, ça se fera en visioconférence. On se partagera nos repas à distance. Il y aura une saveur qui va manquer, cette saveur des soirées du ramadan, effectivement, qui va nous manquer. Mais aujourd'hui, la priorité, elle a la préservation de la santé des gens et la sécurité des gens. Donc nous, aujourd'hui, on est prêt à faire ce sacrifice-là pour préserver la sécurité et la santé de nos concitoyens, de l'ensemble de nos voisins, etc.
Des propos recueillis par Olivia Chandu de France Bleu, Lorraine.
Quand ces écrivains tentent de faire vivre leur livre sorti juste avant le confinement.
Oui, des ventes quasiment stoppées, travail de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Alors certains innovent, comme l'écrivaine Colombe Schneck. Son roman Nuit d'été à Brooklyn venait juste d'être publié quand le confinement était décidé. Alors chaque jour, sur Instagram, elle poste une photo personnelle du New York des années 90 où elle a vécu, le tout accompagné d'un petit texte, Ilana Mor-Youssef.
Tout a commencé par la carte de presse que Colombe Schneck a obtenue dans les années 90 quand elle était stagiaire au bureau du journal Le Monde à New York. Car au début, elle a fait comme nous tous, elle a rangé sa maison.
Pendant les 15 premiers jours du confinement, j'ai rien fait à part le ménage. Et puis j'ai rangé mes livres et j'ai retrouvé des photos, j'ai retrouvé ma carte de presse de l'époque et je l'ai postée comme ça sans réfléchir avec un texte. Et c'est comme ça que ça a commencé par le plaisir d'écrire et de poster ce texte.
Encouragée par les commentaires qu'on lui laisse, Colombe Schneck se prend au jeu. Chaque jour, une photo et un petit texte évocateur de l'atmosphère de son roman.
Je me souviens que je suis lycéenne dans une école, une prep school à côté de Boston. Je rentre dans une cafétéria, je me trompe de cantine et tous les lycéens sont noirs dans cette cantine. D'abord, je suis surprise que blanc et noir soient séparés dans cette école, que la ségrégation soit aussi forte. Je suis naïve, hein, j'ai 16 ans. Je crois que la ségrégation aux États-Unis a disparu. Et je ne sais pas où m'asseoir. Voilà. Je ne sais pas si je peux rester ou pas dans cette cafétéria.
Autant de détails qui ont servi de terreau à son imagination. Nuit d'été à Brooklyn avait tout pour connaître le succès. Une histoire d'amour à New York entre une jeune Parisienne juive et un professeur de littérature noire. Refusant la fatalité, l'auteur s'est emparé d'Instagram pour raconter l'histoire derrière l'histoire.
Et sachez que Nuit d'été à Brooklyn de Colomb Schneck aux éditions Stock existe en version numérique.
Oui, Colomb Schneck qui était venu nous en parler ici même dans ce studio un matin. C'était effectivement avant le confinement. C'était le journal d'Estelle Schmitt.